Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette maladie génétique se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. La drépanocytose concerne environ 300 000 naissances par an dans le monde. Apparue en Afrique et en Inde, elle est depuis devenue très présente en Amérique, tout particulièrement aux Antilles et au Brésil, ainsi qu'en Europe de l'Ouest, du fait des mouvements de population.
Alors comment soigner cette maladie? Pourquoi affecte-t-elle surtout les populations originaires d'Afrique subsaharienne, des Antilles, d'Amérique du Nord et du bassin méditerranéen? Comment se mobilisent les associations qui tentent de sensibiliser sur cette maladie? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Mariam Koulibaly. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présente en direct dans nos studios. Vous êtes présidente de l'association Dré Info. Nous avons en ligne le docteur Annie Kamdem. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Ah, on ne sait pas selon quels critères on va évaluer.
Bonjour, docteur. Vous êtes pédiatre, praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil, au sein du centre de référence de la drépanocytose. Et depuis Abidjan, le docteur Anneau Marin. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes le directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan.
Annie Kamdem, bonjour, on va commencer avec vous. Alors, quels sont les symptômes de la drépanocytose?
Oui, bonjour. La drépanocytose est une maladie du sang, comme on le dit communément. Donc, c'est une maladie qui concerne le globule rouge. Donc, elle se manifeste par le fait qu'au sein du globule rouge, l'hémoglobine va se polymériser. Et cette polymérisation va entraîner la rigidité et la fragilité du globule rouge. Donc, ce globule rouge qui, initialement, doit être assez souple pour pouvoir circuler normalement dans les vaisseaux sanguins. Donc, ce globule rouge anormal, il va adhérer anormalement à la paroi vasculaire, à la paroi de l'endothélium vasculaire, ce qui va entraîner une obstruction au niveau des petits vaisseaux. Donc, ce mécanisme-là va expliquer les deux signes majeurs qu'on va voir dans la drépanocytose, que sont l'anémie et la crise vaso-occlusive. Et les crises vaso-occlusives, en fait, c'est rien d'autre que la douleur liée au fait que ces globules rouges sont coincés dans les petits vaisseaux.
Docteur Annie Kamdem, pourquoi cette maladie affecte-t-elle surtout les populations originaires d'Afrique subsaharienne, des Antilles, d'Amérique du Nord et du bassin méditerranéen?
On va dire que cette maladie, c'est une maladie qui est très ancienne. Elle est origine d'Afrique et de l'Inde. Et cette maladie va se superposer, la carte de cette maladie va se superposer à la carte endémique de l'endémie palustre, des pays endémiques palustres. La pression sélective du paludisme a fait que le gène apparu n'a pas disparu au cours du temps. C'est-à-dire que les patients hétérozygotes, c'est-à-dire qui portent l'anomalie du gène et qui ne sont pas malades, sont protégés contre le paludisme. Par contre, les patients homozygotes développent cette maladie de façon sévère et cette maladie est même mortelle chez ces patients. Ce qui fait qu'au cours du temps, donc le paludisme, les patients hétérozygotes ont survécu au paludisme, ce qui fait que le gène a survécu aussi. Et avec le mouvement des populations, donc ça s'est disséminé un peu partout en Amérique et en Europe.
Docteur Annie Kamdem, comment se transmet la drépanocytose?
Alors, la drépanocytose est une maladie qui est génétique et qui est héréditaire, parce que toutes les maladies génétiques ne sont pas forcément héréditaires. Il y a une anomalie au niveau du gène et c'est transmis des parents aux enfants.
Mariam Koulibaly, vous présidez donc l'association Dré Info. Est-ce que vous constatez une hausse des cas de drépanocytose en région parisienne? Où est basée l'association?
On a une hausse des cas de drépanocytose parce que selon les...
Rapprochez-vous un peu du micro, merci.
Donc je disais qu'on a une hausse des cas de drépanocytose. Selon les chiffres des 5 dernières années, on a à peu près 270 cas de drépanocytose chaque année, rien qu'en région parisienne. Mmh. Et rien ne nous montre, en tout cas de récentes études, qu'il y a eu une baisse de cette chiffre. Donc chaque année, des cas augmentent de plus en plus.
Ce sont des cas qui touchent essentiellement des populations d'origine
le plus souvent, subsaharienne. On va dire, mais il y a un certain dépistage ciblé sur des enfants nés de parents dits de pays à risque. Et donc, on a un petit pourcentage qui n'est pas quand même dépisté à la naissance. Aujourd'hui, la maladie touche à peu près beaucoup de populations et c'est un peu dû au brassage des populations. Donc, c'est un peu compliqué de dire que ça touche uniquement les populations d'origine africaine.
Ouais. Docteur Nomarin, merci de nous rejoindre. Alors, est-ce que la drépanocytose est une maladie répandue en Côte d'Ivoire?
Oui, la drépanocytose est répandue en Côte d'Ivoire. C'est environ 6000 cas par an, soit 14% de la population en matière de taux de prévalence.
Et elle touche en particulier les enfants, hein, parce qu'on voit que sur le continent africain, c'est une maladie qui touche tous les ans 300 000 nouveau-nés sur le continent africain. Est-ce le cas aussi en Côte d'Ivoire ?
Oui, cette maladie, à travers ses zones de prédilection, touche les enfants, mais il a aussi les populations adultes. Hein, et comme me disait le docteur Annie Kandem, c'est une maladie héréditaire, génétique. Donc la transmission, déjà, les premiers signes, comme elle le décrivait, qui sont l'anémie, les syndromes infectieux, les douleurs se manifestent, surtout l'ictère déjà. Donc devant les ictères néonatales, lorsqu'on fait le bilan, on découvre qu'il y a cette notion, cette maladie qui apparaît.
La drépanocytose connaît les taux de prévalence, on le disait, les plus élevés en Afrique, selon plusieurs études médicales. Alors quelles sont les raisons, selon vous, docteur Anomara?
Alors d'abord, l'Afrique, c'est les pays d'endémie palus. Maintenant, il y a trois raisons principales. C'est l'absence de bilan prénuptial, parce que nous l'avons dit, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une maladie génétique et héréditaire. Donc, l'absence de bilan prénuptial, les mariages consanguins surtout, et le mouvement des populations. Donc, si on faisait un bilan prénuptial, on saurait que tel parent est porteur de la forme homozygote ou hétérozygote, on empêcherait ces mariages. La consanguinité, souvent lorsque la maladie existe dans une famille, qu'il y a des liens matrimoniaux, des liens conjugaux qui sont établis dans cette famille, il va s'en dire que cette maladie, elle va prospérer. Or, ces phénomènes-là se retrouvent particulièrement en Afrique, dans les pays qu'on cite, hein, en Inde, et le mouvement des populations a fait qu'il a eu des signes qui sont partis de partout.
Docteur Anomara, est-ce que vous estimez que c'est une maladie qui est délaissée sur le continent africain, et peut-être dans votre pays en Côte d'Ivoire, qu'il y a une sous-information des populations concernant cette maladie?
Alors, délaissé, je dirais non, parce que dans mon pays, particulièrement en Côte d'Ivoire, au niveau du ministère de la Santé, il y a un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Alors donc, la drépanocytose fait partie de ces maladies et elle est prise en charge par ce programme. Mais elle est noyée par les autres maladies, telles le diabète, l'hypertension artérielle, les autres pathologies qui sont beaucoup plus... qui ont des manifestations chroniques, sévères et tout ça. Donc, mais il y a à côté de cela des ONG, par exemple une qui est la fondation LIA, qui font la promotion, qui sensibilisent, qui en parlent. Donc elle n'est pas totalement délaissée. Voilà.
Est-ce qu'il y a un dépistage systématique des enfants en Côte d'Ivoire lors de leur naissance, docteur Anomara? Comme alors, le cas, par exemple, pour la trisomie en amont, pendant la grossesse?
D'abord, la trisomie, c'est-à-dire que dans le bilan prénatal, et nous sommes limités, sachez que nous sommes un pays sous-développé, en voie de développement, et de manière systématique, c'est-à-dire le thème systématique qui n'est pas fait, mais devant des signes d'appel, qui sont entre autres des troubles scolaires chez le jeune enfant, et un ictère néonatal, un syndrome infectieux inexpliqué, et devant une enquête épidémiologique à travers les parents, lorsqu'on sait que ces parents sont eux-mêmes porteurs de cette maladie. Le dépistage est fait dans le milieu du travail, dans le milieu du travail, devant certains mauvais rendements, certains, et on le fait. Alors, ce n'est pas fait de manière systématique, mais devant des signes d'appel, c'est fait. Et maintenant, les obstétriciens, de plus en plus, demandent à la naissance l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est l'examen qui permet de découvrir cette maladie.
Docteur Annick Amdem, alors la même question en France, pourquoi n'y a-t-il pas de dépistage systématique comme c'est le cas pour la trisomie ?
En France, il y a un dépistage systématique néonatal depuis les années 2000. Donc, c'est même déjà en 1983 déjà, on avait commencé le dépistage ici à Créteil. Ensuite, ça s'est généralisé dans les DOM et depuis les années 2000, c'est généralisé sur tout le territoire français. Mais le dépistage, il est un dépistage ciblé au niveau des populations à risque.
Donc, qui est toujours proposé aux personnes qui viennent de ces régions ?
Oui, toujours, c'est ciblé. Donc il y a une enquête au niveau de la maternité, enquête d'origine, et c'est assez élargi, hein, donc toutes les populations d'origine afro-antillaise, d'origine asiatique et d'origine maghrébine sont dans la région méditerranéenne, sont dépistées de façon systématique à la maternité. Donc, durant l'année 2019, on a enregistré à peu près 580 naissances sur un dépistage de 330 000 patients dépistés.
Mariam Koulibaly, votre association fait de la sensibilisation auprès des populations concernées. Je suppose que vous accueillez beaucoup de personnes qui sont touchées par cette maladie. Alors comment vit-on au quotidien avec la drépanocytose ?
C'est très difficile au quotidien. C'est une maladie de douleur. Déjà, c'est assez invisible. Les personnes qui vivent avec ça font face à beaucoup d'anémie. Déjà, quand on est anémié, on est fatigué. C'est vraiment une fatigue chronique. C'est compliqué de continuer à aller à l'école comme tout le monde, de faire un travail comme tout le monde et des activités de la vie normale, en fait. Et la difficulté, c'est aussi au niveau du fait que, comme c'est un handicap invisible, on ne voit pas forcément la souffrance de la personne sur son visage. Ouais. Et donc, par exemple, sur un supermarché, une personne qui vient faire, par exemple, la queue avec sa carte de la MDPH, parce que c'est une maladie reconnue comme un handicap invisible.
La MDPH, juste préciser.
La MDPH, c'est la Maison départementale pour le handicap. Ouais. Et donc, c'est des personnes qui ont cette reconnaissance de travailleurs en qualité, enfin, de personnes en situation de handicap. Donc, c'est des regards un petit peu méchants. On ne comprend pas une personne qui est sur pied, qui a l'air bien portant, mais qui vient faire justement, qui est sur un fil d'attente réservé aux personnes handicapées. On a forcément un peu du mal à comprendre et ouais. C'est des remarques un petit peu méchantes. Et donc, c'est des personnes qui font face à beaucoup de remarques comme ça au quotidien. Ouais. Et des hospitalisations par... assez fréquente parce oui. que quand on a un cas assez grave de la drépanocytose, imaginez 12 mois de l'année que vous passez 10 mois à l'hôpital, c'est des échéances transfusionnelles, c'est tout le temps des contrôles pour voir en fait si tout va bien au niveau des organes vitaux parce que c'est une maladie qui provoque beaucoup d'infections oui. et donc des enfants déjà c'est assez difficile mais encore pour les adultes mener en fait sa vie professionnelle et aussi gérer ça même avec la vie de famille. Donc c'est des situations très très difficiles à vivre pour les patients.
Ce que vous dites c'est que les personnes atteintes de drépanocytose doivent être traitées durant plusieurs années, voire même toute leur vie, c'est ce que vous dites, avec des passages réguliers chez les médecins et dans les hôpitaux.
Oui, chez les hématologues puisque on est soumis à un traitement à vie. Jusque-là, en fait, on n'a que deux façons de pouvoir guérir, d'espérer d'en guérir définitivement. peut-être que les médecins auront l'occasion d'en toucher deux mots. C'est la greffe de moelle osseuse ou la thérapie génique, mais encore, c'est des dispositifs en phase d'expérimentation. Sinon, on est obligé de prendre des traitements à vie et surtout pour les personnes qui ont besoin de sang régulièrement, d'aller chaque deux mois à l'hôpital pour avoir des saignées et ensuite recevoir des poches de sang.
Ah, vous nous expliquez en fait les conséquences sur le quotidien et la vie de famille lorsque l'on a cette maladie concernant notamment les enfants, d'où l'importance peut-être d'un accompagnement psychologique pour les parents et pour le reste de la cellule familiale, d'où l'importance des associations qui œuvrent dans ce sens.
Oui, c'est super important. Déjà, quand on fait face à une maladie qui n'est pas connue, les parents se sentent déjà un peu coupables d'avoir transmis une maladie à leurs enfants, sachant qu'ils auraient peut-être pu éviter si, dès le départ, ils ont su qu'ils étaient porteurs du gène. Au sein aussi de la fratrie, peut-être que les frères et les sœurs ne comprennent pas forcément pourquoi l'enfant malade a autant d'attention de la part des enfants. Et un accompagnement psychologique, c'est vraiment super important pour déjà que le malade se sente bien. Et aussi, à partir de là, qu'il puisse intégrer le fait que j'ai une maladie, mais à partir de là, je peux aussi me faire soigner. Et les rôles des associations, c'est de créer aussi un cadre pour que les parents et les enfants puissent prendre la parole, surtout se libérer, parce que quand on est entre l'hôpital, sa maison, on a très peu de temps pour des activités sociales, on a presque pas de vie. Et créer un cadre où les patients peuvent venir parler un peu et aussi voir qu'il y a des familles qui vivent à peu près les mêmes choses que nous, ça rassure d'une manière et ça permet vraiment de pouvoir baisser des gardes, d'avoir un peu de pression en moi et de se dire qu'on a toujours un soutien quelque part, qu'il y a des gens qui nous comprennent d'une manière ou d'une autre.
Docteur Annie Kamdem, alors Mariam Koulibaly en a dit quelques mots, mais comment soigne-t-on cette maladie, la drépanocytose ? Peut-on guérir déjà ?
Déjà, je dirais, la drépanocytose, c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, monogénique. Donc, il y a une anomalie du fonctionnement d'un gène. Mais sur le plan clinique, cette maladie a plusieurs expressions. C'est une expression qui est multigénétique. Donc, il y a d'autres facteurs génétiques qui vont influencer la sévérité et même des facteurs environnementaux qui vont influencer la sévérité de la maladie. Donc, je dirais d'emblée qu'on peut guérir de cette maladie là. Madame Koulibaly, elle a évoqué la greffe, donc il y a la greffe et il y a la thérapie génie. Et pour bénéficier de la greffe, docteur Françoise Bernonat, elle a beaucoup expérimenté, donc on a besoin d'avoir un frère ou une sœur HLA identique pour pouvoir bénéficier d'une greffe géno-identique. Je dis géno parce qu'il existe aussi des greffes avec de la fratrie ou avec un parent moitié identique, mais les résultats ne sont pas les même. Donc, pour ce qui est de la greffe géno-identique, on est à peu près à 95-98% de chances de réussite. Donc, ça devient une véritable thérapeutique. Et en France, ces années, on greffe à peu près 15 à 20 patients chaque année.
Docteur Anomara, soigne-t-on cette maladie de la même manière en Côte d'Ivoire ?
Oui, mais sachez que la greffe n'est pas aussi facile, elle est assez coûteuse. Nous la soignons, nous luttons contre tous les signes qui ont été décrits au-delà, dans le cadre de cette maladie. Il y a des hématologues qui sont spécialisés dans les grands CHU, dans les grandes formations sanitaires, qui savent prendre en charge cette maladie. Aujourd'hui, l'objectif, nous, ici, c'est de pouvoir, même dans les formes homozygotes les plus graves, améliorer l'espérance de vie de ces malades et un confort de vie.
Docteur Annie Kamdem, est-ce que la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le traitement de la drépanocytose durant ces deux dernières années ? Enfin, surtout durant un an.
Je dirais que il y a eu un impact, je dirais, positif et négatif. Alors, en fonction des zones chenoux, par exemple, il y a eu un impact, c'est paradoxal, positif sur la prise en charge de la maladie, dans ce sens que les patients qu'on observait moins observants, ils avaient peur de venir consulter, ils avaient peur des crises, ils avaient peur des hospitalisations, et du coup, ils étaient beaucoup plus observants. Donc, de ce côté-là, je dirais que ça a eu un impact positif sur la prise en charge de la drépanocytose, mais on a constaté également que nos patients qui avaient été infectés par le Covid n'avaient pas une gravité particulière en dehors de la forme SC, chez qui on observait une évolution un peu grave de la maladie.
Mariam Koulibaly, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail au sein de l'association, les objectifs et les missions de l'association AdréInfo?
Alors, notre objectif principal, c'est déjà l'information et la sensibilisation de la drépanocytose, parce que c'est une maladie qui reste très peu connue, malgré le fait qu'elle soit la première maladie génétique au monde et la plus fréquente en France ici. Mais c'est une maladie qui n'est pas vraiment connue, parce que quand les malades arrivent... selon les hôpitaux et selon dans la ville où ils se trouvent, parfois on a du mal à appliquer le protocole de prise en charge, ce qui nous montre que la maladie n'est pas déjà connue. Et c'est à partir de cette information qu'on arrive à déconstruire aussi certaines idées reçues sur la drépanocytose. Parce que la plupart du temps, quand on ne connaît pas quelque chose, on a une idée arrêtée là-dessus et on a l'impression qu'il n'y a que du négatif autour de ça. C'est une maladie difficile. On a surtout besoin de montrer aux gens que malgré le fait qu'on porte une maladie génétique, on peut faire des activités comme tout le monde quand on a une bonne prise en charge. Et ce travail vraiment d'information et de sensibilisation, nous, on le fait au sein de l'association pour amener une certaine parole au niveau du grand public, donner la parole aux malades et aussi aux médecins pour nous parler de tous les sujets possibles concernant la drépanocytose. Et comme on est tout nouveau, la structure elle a été mise en place en 2020, mais en amont, on avait déjà cette démarche d'information et de sensibilisation depuis 2017. On a commencé à mettre en place des actions vers le Mali parce que c'est vrai que l'Afrique reste le territoire le plus touché par la drépanocytose dans le monde. Et nous, on vient un peu en appui aux associations de malades sur place pour venir en aide aux enfants touchés par cette maladie et qui sont issus de familles défavorisées. Et comme c'est une maladie qui se caractérise le plus souvent par la douleur, des douleurs vraiment atroces, et l'apport, un soutien envers ces enfants-là, rien qu'avoir des antalgiques, ne serait-ce qu'un petit doliprane, c'est déjà un grand pas pour justement les aider à se soigner.
Docteur Annie Comdam, Mariam Koulibaly parle de douleurs atroces, donc ça veut dire qu'il faut une surveillance médicale au quotidien?
Au quotidien, il faut une bonne prise en charge de ces patients-là, dont la prise en charge commence déjà dès le début au dépistage néonatal. Donc, lorsque le dépistage est fait déjà à partir de l'âge de 2 mois, les patients sont pris en charge. Pour des patients qui ont la forme sévère, il faut les voir régulièrement tous les 3 mois en consultation et réaliser un bilan général chaque année pour pouvoir évaluer et pouvoir prévenir la survenue des complications. Ceci dit, il faut établir un parcours de soins assez précis, assez correct pour ces patients-là. Pour nous, les médecins, il faudrait qu'on puisse pouvoir poser à temps l'indication d'intensification du traitement. Donc, c'est des patients qui vont présenter des anémies aiguës, donc ils vont être fatigués, il y a une fatigabilité, donc il faut pouvoir qu'ils prennent régulièrement des médicaments qu'on leur prescrit pour éviter d'aggraver cette anémie-là. Il faut leur prescrire des médicaments de la douleur, il y a des paliers pour lesquels les patients peuvent utiliser des médicaments à domicile et au-delà de ces paliers-là, les malades sont référés pour une prise en charge hospitalière. Donc, ceci dit, une fois que ceci est fait, lorsque le médecin estime qu'il faut intensifier le traitement, on a pas mal de paliers d'intensification. Il y a l'hydroxyurée qui est l'un des médicaments principaux qu'on utilise utilise pour éviter les crises vaso-occlusives. Donc, il faut largement utiliser, il faut largement diffuser. Il y a une belle étude qui a été faite récemment par l'équipe ougandaise et le professeur Rousselwell à l'hôpital de Cincinnati aux États-Unis. Déjà, on savait de façon empirique que l'hydroxyurée, avec des bons résultats aussi bien chez nous que dans les zones en Afrique subsaharienne, mais il a donc, on a fait cette étude NOAM-là et plus NOAM-MDT, donc qui permet d'identifier la dose maximale à utiliser et qui montrait que on l'utilisait avec un bénéfice énorme chez ces patients. Mmh. Donc il est important d'utiliser de façon correcte, d'avoir une surveillance qui est simple pour nos confrères. Avec une bonne surveillance, on obtient une meilleure qualité de vie pour nos patients.
Alors, Mariam Koulibaly, le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À cette occasion, vous, quel est le message que vous souhaitez faire passer ?
C'est toujours ce message de prévention à l'endroit des publics. Tout le monde peut être touché par la drépanocytose. C'est quelque chose qu'on transmet à ses enfants, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on n'attrape pas, mais on est avec. Donc le message, c'est vraiment d'inciter les populations à se faire dépister, à faire le test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est le test qui permet de connaître son statut, savoir si on est porteur ou pas du gène de la drépanocytose, éventuellement éviter la transmission à ses progénitures.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, Mariam Koulibaly. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association DréInfo. Je suppose qu'on vous retrouve sur les réseaux, sur Internet, pour en savoir un petit peu plus sur l'association.
Oui, tout à fait. Le site Internet, c'est dréinfo.org et on est présent sur Facebook et Instagram. Merci encore à Radio Africa pour cette invitation.
Merci à vous, docteur Anno Marin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Merci à docteur Annie Kamdem. Je rappelle que vous êtes pédiatre, praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil au sein du centre de référence de la drépanocytose. Et je suppose qu'il y a également des sites internet sur lesquels on peut aller pour en savoir un petit peu plus, docteur.
Oui, il y a un site internet de l'hôpital intercommunal de Créteil sur lequel on peut retrouver des études. On peut retrouver également l'étude de DrépaScol pour la prise en charge scolaire et la prise en charge des difficultés scolaires des enfants drépanocytaires. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Docteur Annie Kamdem, avant de conclure, peut-être vous aussi également, quel est le message que vous souhaitez faire passer à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ?
Alors, je dirais qu'au niveau de la France, il est important que le dépistage ne soit plus que ciblé, que le dépistage soit généralisé. Et à l'endroit de mes confrères, je dirais qu'il est important que nous, pédiatres, qu'on puisse assurer une bonne prise en charge pour pouvoir passer à nos confrères adultes, des jeunes adultes en bonne santé. Donc, c'est-à-dire il faut savoir poser l'indication de l'intensification du traitement.
Merci beaucoup. Merci docteur. Désolé, la pause arrive. On va se retrouver pour la suite dans un instant.
Merci.
C'est pour ça que j'ai arrêté.